Vous écoutez, on lit pour vous.
Les dons en action gagnent en popularité. Un texte de Julie Chaumont, paru le 13 novembre 2025 dans la presse. Au cours des quatre dernières années, Centraide du Grand Montréal a vu une augmentation du nombre de dons en action d'environ 26 %. Il faut dire que ce type de don comporte d'intéressants avantages, tant pour la personne qui le fait que pour l'organisme qui le reçoit. Entretien avec Raphaël Desrues, directeur principal, grand donateur et dons individuels chez Centraide du Grand Montréal. Qu'est-ce exactement que le don en action? Les dons en action, c'est un don de bienfaisance comme n'importe quel autre don. La seule différence est que ce qu'on va donner à l'organisme, ce sont des titres, des actions, des obligations ou des fonds communs de placement. Les trois peuvent être admissibles. Ce sont les actions en elles-mêmes qu'on donne, pas les revenus de la vente d'actions. Comment faire pour donner des actions? En général, l'organisme va transmettre un formulaire de don à la personne qui souhaite lui donner des actions. Une fois ce formulaire rempli, le donateur va le renvoyer à l'organisme et va par la suite contacter son courtier ou son conseiller financier pour donner l'ordre de transférer les actions à l'organisme. La transaction va ensuite se faire de courtier à courtier. Aujourd'hui et de plus en plus, il existe des comptes de courtage individuels, Wealthsimple, Disnat, etc. Donc, on a la possibilité de faire un don en action comme ça, mais dans l'immense majorité des cas, c'est de courtier à courtier. Un élément quand même important à souligner, à la réception des actions par l'organisme de bienfaisance, c'est la valeur de réception des actions qui va déterminer le montant du reçu fiscal émis au donateur. Donc là, il peut y avoir un décalage par rapport à la promesse qui a été faite par le donateur, car avec la volatilité des marchés, si les actions rentrent deux jours plus tard dans notre compte de courtage, il se peut qu'elles soient un peu plus hautes ou un peu plus basses que la valeur unitaire de l'action. De toute façon, le reçu est remis à la valeur à laquelle on a reçu les actions. Que font les organismes avec leurs actions? Chez Centraide, une fois qu'on a reçu les actions, on les revend. Il n'y a pas d'obligation légale de revendre les actions immédiatement, mais l'immense majorité des organismes de bienfaisance ont dans leur politique d'acceptation des dons des règles vis-à-vis de la gestion de la réception d'actions. À Centraide, on les revend immédiatement pour deux raisons. La première, c'est que les marchés sont volatiles, donc il y a un risque à garder des actions qui pourraient perdre de la valeur. Et la deuxième raison, c'est que l'argent, on en a besoin maintenant. On a besoin de financer nos projets maintenant, de soutenir les organismes maintenant. Y a-t-il des avantages au fait de faire un don en action plutôt qu'en argent? Oui. Il faut savoir que le don en action est une des formes de dons les plus avantageuses fiscalement. Comme toutes les autres formes de dons, à la réception des actions et en fonction de la valeur au jour de la réception des actions, on va remettre un reçu fiscal. Et ça, on le fait de la même façon que pour un don par chèque, par carte de crédit ou n'importe quelle autre forme de don. La différence avec le don en action, c'est que le donateur qui nous envoie des actions va être exonéré du gain en capital pour les actions. Si le donateur était amené à vendre les actions avant de nous envoyer l'argent, il serait imposé sur le gain en capital à 50 % de la plus-value. En transférant les actions directement, ça évite de payer l'impôt sur le gain en capital, donc ça fait faire une économie supplémentaire. Y a-t-il un montant minimal à respecter pour faire un don en action? Non, pas nécessairement. Toute personne qui a investi dans un portefeuille de titres peut transmettre des actions à un organisme de charité. Maintenant, on ne peut pas nier que ça s'adresse à des personnes ayant la capacité financière d'avoir un portefeuille de titres qui ne sont pas enregistrés. C'est sûr que c'est quand même limitant pour un certain nombre de personnes. C'était « Les dons en action gagnent en popularité », un texte de Julie Chaumont paru le 13 novembre 2025 dans la presse.
Statut d'élimination, rougeole. Une perte embarrassante, entre guillemets, pour le Canada. Un texte de Eliette Lévy, publié le 4 décembre 2025 dans La Liberté. Citation. C'était attendu, dit le microbiologiste Philippe Lagacévien, en réponse à cette nouvelle. Selon les experts, des petites éclosions de rougeole n'ont pas été rares au fil des ans depuis que la maladie a été officiellement considérée comme éliminée au Canada en 1998. Ces transmissions ont tendance à être de courte durée en raison d'un taux de vaccination élevé qui empêche la propagation généralisée du virus. Cependant, après environ 6 à 8 mois de transmission continue dans tout le pays, il est devenu clair aux yeux des experts que la situation d'élimination serait bientôt perdue. Citation. Le taux d'immunisation dans certaines régions du pays était insuffisant pour la protection complète de la communauté. C'était évident que ça prendrait plus que 12 mois à contrôler l'éclosion. Fin de citation. Il ajoute que, bien que la situation se soit progressivement améliorée, il est probable que le pays ne retrouve pas son statut d'élimination avant au moins 2 ou 3 ans, puisqu'il faut une élimination complète des cas pendant 12 mois consécutifs. Le nombre de cas de rougeole au Canada a lentement diminué depuis l'été, mais le docteur Lagacévien souligne que cela est normal pour un virus qui provoque une immunité aussi forte. Plus le nombre de personnes non vaccinées et infectées est élevé, plus l'immunisation collective est importante. Citation. La vraie différence, évidemment, c'est qu'un vaccin est entièrement sécuritaire comparé au virus lui-même qui provoque des maladies très sérieuses, des pneumonies, des admissions à l'hôpital et, dans certains cas, des séjours aux soins intensifs et même la mortalité. Fin de citation. La non-vaccination reste un problème. Selon les chiffres de la province, 87,2% des cas de rougeole au Manitoba concernaient des personnes qui n'avaient reçu aucune des 2 doses du vaccin. Tout au long de la pandémie et au cours des années qui ont suivi, le nombre de vaccinations contre la rougeole n'est pas revenu au taux antérieur. Et bien que les taux de vaccination aient augmenté au cours de l'année dernière, Philippe Lagacévien affirme qu'il reste difficile d'atteindre les personnes réticentes à être immunisées en raison du sentiment anti-vax qui grimpe depuis la COVID. Citation. C'est assez facile de retrouver les gens qui ont manqué leur immunisation, qu'on a perdu du système pendant la pandémie. Mais on souffre quand même d'une certaine résistance aux immunisations et c'est ce groupe-là où c'est difficile parce que ça prend beaucoup d'efforts, d'éducation, de discussion avec des parents, des adultes qui ne sont pas immunisés. Fin de citation. Pour cette raison, il est possible que le nombre de cas recommence à augmenter, contredisant ainsi la tendance actuelle à la baisse. Plusieurs communautés n'ont encore enregistré aucun cas d'infection, mais leur faible taux de vaccination les rend vulnérables à une éventuelle épidémie. C'est la raison pour laquelle le Canada a connu plusieurs épidémies de rougeole le plus grave toutes les quelques années. Par exemple, en 2011, le Canada avait enregistré 752 cas, une épidémie qui s'était pratiquement résorbée l'année suivante. Citation. Le virus infecte 95% des gens, ce qui cause une immunité très élevée dans la communauté par l'infection. Et puis là, ça disparaît pour plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau groupe d'individus, les enfants, qui y sont encore susceptibles. Fin de citation. Une perte embarrassante pour le Canada. Selon Philippe Lagacévien, la perte du statut d'élimination vise principalement à inciter un pays à l'action à travers des pressions diplomatiques. La perte de ce statut est considérée comme un embarras national sur la scène internationale, surtout pour un pays avec un système de santé universel avancé et un programme de vaccination gratuit. Citation, non seulement on a perdu le statut, mais on a aussi fait perdre le statut des Amériques en entier, qui était la première région du monde à déclarer que la rougeole était éliminée, précise le docteur, bien qu'il est prévu que les États-Unis perdront eux aussi leur statut bientôt. Sur le plan politique, cela signifie que d'autres pays pourraient exiger que leurs voyageurs soient vaccinés contre la rougeole avant de se rendre au Canada, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'industrie du tourisme. Mais la pression internationale aura probablement peu d'effet. Les soins de santé sont une responsabilité provinciale, ce qui signifie que chacune d'entre elles aura sa propre façon de gérer les épidémies et les programmes de vaccination. Citation, le fédéral peut faire des déclarations, offrir un certain soutien financier pour la santé publique. Mais on voit plutôt des coupes au niveau fédéral que des financements en santé publique. Je crains que ce sera difficile d'avoir une approche unie. Fin de citation. Au Manitoba, le gouvernement a redoublé d'efforts pour encourager la vaccination et retracer les personnes infectées. Mais le docteur Lagacévien estime qu'il serait possible d'en faire davantage en matière d'accessibilité. Cela impliquerait garantir la distribution des vaccins dans toutes les pharmacies et cliniques et d'inciter les personnes qui n'ont reçu qu'une seule dose à se faire vacciner complètement. Citation, la grande majorité des gens qui croient qu'ils sont immunisés complètement ne le sont pas, souligne-t-il. Avoir un moyen simple d'accéder à son dossier vaccinal complet, cela a été le cas pendant la pandémie, pourrait aider les gens à vérifier leurs propres informations médicales et permettre aux institutions de santé publique d'envoyer à chacun des rappels de vaccination. Fin de citation. C'était « Statut d'élimination rougeole, une perte embarrassante pour le Canada ». Un texte de Eliette Lévy, publié le 4 décembre 2025 dans La Liberté.
L'Arctique a vécu l'année la plus chaude jamais enregistrée. Un texte d'Issa Marmed, publié le 16 décembre 2025 dans Le Devoir. L'Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée, selon un rapport de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, NOAA, paru mardi, qui dresse un tableau alarmant de cette région particulièrement soumise aux effets du réchauffement climatique. Entre octobre 2024 et septembre 2025, les températures ont été supérieures de 1,60 degrés à la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020, selon le rapport annuel sur l'Arctique qui s'appuie sur des données remontant à 1900. Tom Ballinger, co-auteur de l'étude de l'Université d'Alaska, a déclaré à l'AFP qu'il était alarmant de voir un tel réchauffement sur une période aussi courte, qualifiant la tendance d'apparemment sans précédent à l'époque récente et peut-être depuis des milliers d'années. L'année analysée par la NOAA comprend l'automne le plus chaud, le deuxième hiver le plus chaud et le troisième été le plus chaud en Arctique depuis 1900. Cette région, qui englobe le pôle Nord, est touchée par un phénomène appelé « amplification », qui fait qu'elle se réchauffe plus vite que les latitudes moyennes. Ce mécanisme est dû à de nombreux facteurs, comme la perte de la couverture neigeuse et de la banquise. Fonte de la banquise. En mars 2025 a été enregistré un recul inédit de la banquise de l'Arctique, avec le pic d'étendue le plus bas mesuré depuis le début de la surveillance par satellite. Les scientifiques du National Snow and Ice Data Center, NSIDC, ont estimé que la banquise de l'Arctique avait atteint sa taille maximale le 22 mars, avec une superficie évaluée à 14,33 millions de kilomètres carrés, soit la plus petite mesurée en plus de 4 décennies de surveillance satellitaire. Chaque hiver, la banquise, glace formée par le gel de l'eau de mer, reprend ses droits autour du pôle Nord et s'étend pour atteindre une surface maximale en mars. Mais en raison du réchauffement climatique d'origine humaine, la glace peine de plus en plus à se reformer. Un problème immédiat pour les ours polaires, les phoques et les morses, qui utilisent la glace comme plateforme pour se déplacer, pour chasser et pour mettre bas, explique Walt Meyer, co-auteur du rapport NSIDC. Si la fonte de la banquise ne fait pas directement monter le niveau des océans, contrairement à la fonte de la glace qui se situe sur Terre, calottes glaciaires, glaciers, elle provoque de nombreuses conséquences climatiques qui menacent beaucoup d'écosystèmes. Et cette fonte accentue également le réchauffement climatique, car en diminuant de superficie, la banquise blanche découvre l'océan qui, plus foncé que la glace, réfléchit moins d'énergie solaire et absorbe plus d'énergie. La fonte de la banquise et la hausse des précipitations perturbent aussi la circulation des océans avec l'injection d'eau douce en Atlantique Nord. Cela rend ainsi les eaux moins denses et moins salées, les empêchant d'alimenter la circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, AMOC, un système de courants marins au rôle majeur dans la régulation du climat, dont certains permettent notamment d'adoucir les hivers en Europe. Vagues de froid. Et comme l'Arctique se réchauffe plus rapidement que le reste de la planète, cela fait diminuer les différences de température qui aident à garder l'air froid confiné près du pôle, permettant aux vagues de froid glacial de se répandre plus fréquemment dans les latitudes inférieures selon plusieurs recherches. Les précipitations dans la région ont également connu un niveau record sur la période octobre 2024-septembre 2025, également connue sous le nom de l'année de l'eau et classée parmi les 5 années avec le plus de pluie depuis 1950. Ces températures plus élevées et une météo plus humide entraînent par ailleurs le verdissement de la toundra, un milieu écologique constitué d'une végétation rase et du permafrost, un sol gelé qui contient le double de la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère et le triple de ce qui a été émis par les activités humaines depuis 1850. En 2025, la moyenne de verdure maximale de la toundra circumpolaire était la troisième plus élevée en 26 ans d'enregistrement satellitaire. Le dégel du permafrost ou pergélisol libère du fer dans l'océan et est notamment responsable du phénomène des rivières rouillées. Selon le rapport, plus de 200 cours d'eau ont ainsi été identifiés comme étant décolorés et orange, signe d'une dégradation de la qualité de l'eau, contribuant notamment à la perte de la biodiversité aquatique. C'était « L'Arctique a vécu l'année la plus chaude jamais enregistrée », un texte d'Issam Ahmed, publié le 16 décembre 2025 dans Le Devoir.
Sexualité et dating. Qu'est-ce qui nous attend en 2026? Un texte de Myriam Daguzan-Bernier, paru le 19 décembre 2025 dans le magazine Urbania. L'auteur est sexologue et nous offre ce petit collage éparpillé de tendances sexu à venir, pour le meilleur et pour le plaisir. Ouf! Quelle fucking année, peut-on se le dire? Si en 2025, on souhaitait avoir un certain contrôle sur sa sexualité pour, peut-être, réussir à contrer le chaos ambiant, qu'en est-il pour 2026? Est-ce que l'IA sera connectée à nos bobettes? Réponse courte, oui. Aura-t-on encore besoin de romances guimauvées ou est-on un peu plus terre-à-terre? Ou les deux? Let's see. Thérapie ou ChatGPT? La première chose que je me suis dite en faisant cet exercice est « Coudonc, vais-je perdre ma job? » La question se pose, car l'IA fait maintenant partie de nos vies et pas à peu près. Selon un rapport annuel de la Harvard Business Review, l'utilisation première de l'intelligence artificielle chez le public en 2025 a été pour faire de la thérapie. Ma collègue Vanessa Destiné se dit d'ailleurs en relation d'aide avec ChatGPT et, si l'on en croit ce document, elle n'est manifestement pas la seule. Si je vous parle de ça, c'est que l'IA s'insinue partout dans nos vies, incluant bien sûr notre intimité. Et 2026 n'y échappera pas. On prévoit que de plus en plus de gens se serviront de logiciels d'intelligence artificielle pour obtenir des conseils sur la sexualité. On parle même de « digital threesome », puisque l'IA s'insinue dans le traditionnel couple à deux pour « spice up » les relations sexuelles. On s'en servira aussi pour trouver du soutien après les ruptures difficiles et pour savoir comment mieux dater. D'après l'application Happn, l'IA servira d'emotional training, entraînement émotionnel, pour exprimer plus facilement ce qu'on ressent. Ah, by the way, de Therapy Talk, comme préliminaire, est aussi dans les tendances à surveiller. L'intelligence émotionnelle is the next sexy thing. Pour vrai. Toujours du côté de l'IA, il y a évidemment toute la technologie intelligente qui s'insère maintenant dans les jouets sexuels. Des gadgets qui s'adaptent de façon ultra précise au corps, aux sensations voulues, aux mouvements, etc. Il y aura de plus en plus d'appareils connectés et sophistiqués à porter pour capter les réponses du corps et renseigner les jouets sur vos besoins particuliers. Self-care intime et planétaire. Parlant consommation de jouets. La prochaine année marquera vraisemblablement la normalisation de l'utilisation de ces petits amis pratiques. Non seulement les ventes vont continuer à exploser, mais leur usage sera ciblé, entre autres pour la santé. Car avoir des orgasmes ou juste du plaisir sans pression, ça aide la santé mentale et physique. On voit donc de plus en plus la valeur ajoutée de ces objets dans nos vies, dans une perspective de bien-être. On se préoccupe d'ailleurs aussi de la santé de la planète, puisque de plus en plus de personnes se tournent vers des alternatives plus vertes, jouets sexuels inclus. L'intérêt pour une sexualité éco-consciente est bien réel, et le marché s'adapte en conséquence. Condoms vegan, lubrifiants à base d'ingrédients naturels, jouets sexuels durables, etc. Et bien sûr, des emballages plus éco-friendly pour vendre ces beaux produits. Tout ça tombe à point. L'éco-dating ou la rencontre éco-responsable est encore trendy. Abracadadating. Ah, oh, le dating. Impossible de faire des prédictions sexo sans creuser ce sujet crucial qui fait couler encore beaucoup d'encre. Comme on l'a vu plus tôt, on sait déjà que l'IA s'en mêlera, entre autres, via le simple fait de se tourner vers des chats GPT et qu'on sort en ligne pour mieux arriver à connecter en chair et en os. Mais aussi via les fameux « dating » concierges sur les applications de rencontres qui proposeront de plus en plus d'options de personnalisation pour vous assurer une expérience concluante. Sinon, l'application Plenty of Fish semble avoir eu bien du fun à concocter un lexique des trends populaires chez ses utilisateurices. Retenez ces cinq mots. Cam Restry. Restez ouvert, ouverte à ressentir une chimie non prévue avec une personne. De la chemistry avec du riz, quoi. Curveball crushing. Dater hors de son type habituel ou de sa checklist. Parce que oui, ça arrive de se pogner une balle courbe et elle n'est pas obligée d'être poche. Love luring. Dérivé de dating for the plot, j'adore. On reste dans une date pour l'histoire qui va venir avec. Bref, on sort son ou sa scénariste intérieure et on enjoy le récit légendaire qui en résultera à notre prochain souper d'amis. True casting. Aller à une date de la façon la plus authentique possible. Salut! Voici qui je suis. Si t'aimes pas ça, on passe au suivant ou à la suivante. Sans rancœur, mon petit cœur. Hé là là! Status flexing. Laissez tomber des situationships pas claires et clarifier les relations questions de rassurer tout le monde. J'en entends applaudir. PVI. Je rêve d'entendre vos traductions québécoises de ces expressions. Please, faites-le. Sortir de sa zone de confort. Parmi les autres pratiques qui seront populaires dans le dating, on retrouve le Digital Detox Dating ou la rencontre de désintoxication numérique, un terme très peu vendeur, « would not recommend ». Comme on sait que des tas d'ados et de jeunes adultes embrassent le retour du flip phone, ce n'est pas surprenant de constater que l'envie de connexion hors ligne soit tendance. Joindre un club de crochet, aller à un vernissage, boire un thé au café du coin, et ce, dans l'optique de rencontrer des gens live. Je sais, ça fait peur, mais vous êtes capable. Tant qu'à vivre aussi dangereusement, il sera aussi possible d'explorer le « hot take dating », c'est-à-dire une rencontre au cours de laquelle on confronte nos valeurs en discutant politique et sujets chauds. Dans l'état actuel de notre monde, il est un peu plus difficile de passer outre, et tant mieux. Mettre carte sur table, ça peut être payant ou du moins éclairant. Sinon, il y a toujours le solo partnership ou sologamie. De plus en plus de gens souhaitent mettre de côté les relations amoureuses pour apprendre à mieux se connaître et faire du travail sur son développement personnel. C'est vrai qu'au final, la plus longue relation que vous aurez, c'est toujours bien avec vous-même. Autant la vivre avec quelqu'un ou quelqu'une que vous avez appris à aimer avec ses bons et ses mauvais côtés. Bref, pratiquer l'autocompassion, ça fait du bien. De quoi sera fait 2026 dans son ensemble? Ça reste à voir. Mais du côté des sexualités, on peut constater une envie d'approfondir la connaissance de soi et de l'autre et de brasser les cartes différemment. Il y a une claire volonté de revenir à des connexions plus vraies, plus senties, mais aussi un besoin de jeu, d'inconnu, de surprise. Tout ça avec un petit, grand fond d'intelligence artificielle pour se sécuriser et se valider. Bien curieuse de voir l'évolution de tout ça. Et l'avenir nous dira si ma job sera remplacée par l'IA ou pas. Pour l'instant, je n'ai aucune crainte. On est encore humain et humaine, trop humain et trop humaine pour s'en passer. Clin d'œil au livre « Humain, trop humain » 1878 de Friedrich Nietzsche. C'était « Sexualité et dating, qu'est-ce qui nous attend en 2026 ?» Un texte de Myriam Daguzan-Bernier, paru le 19 décembre 2025 dans le magazine Urbania.